sur la liste, vous avez compté les personnes.
Il y a beaucoup de gens qui manquent.
Oui. Donc, moi, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence avec M. Fabien Opperman, qu'on a grand plaisir à accueillir pour présenter son ouvrage. Donc, Fabien Opperman, vous êtes diplômé de l'École nationale des chartes en tant qu'archiviste paléographe avec une thèse sur images et usages du château de Versailles au XXe siècle. Vous m'avez avoué que vous aviez failli commettre une thèse sur la Société des Amis de Versailles, mais finalement, voilà, vous étiez reporté sur un autre sujet, mais donc les Amis de Versailles est un thème qui vous tient à cœur. Vous êtes également donc diplômé de l'École pratique des hautes études en histoire culturelle et en histoire de l'art, et vous êtes depuis 2005 conservateur en chef du patrimoine et dirigez la mission des archives et du patrimoine culturel au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous êtes également directeur du Collège néerlandais de la Cité internationale universitaire de Paris depuis 2009. Alors après de nombreux articles et autres sur Versailles, notamment en lien avec les Américains à Versailles sur le remeublement, donc vous avez publié en mars de cette année un ouvrage, Le Versailles des présidents, donc 150 ans de vie républicaine chez le roi Soleil. Et nous sommes très heureux de vous entendre nous parler de ce sujet. Donc après votre conférence, votre ouvrage est en vente pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir et avoir une dédicace. Donc voilà, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Je vais vous donner du son.
Oui, je vais allumer le son.
Oui.
Voilà. Alors. Est-ce que vous m'entendez? Ça va?
Merci.
Alors bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder à Versailles. C'est un sujet, on va dire, qui dépasse 1789, qui dépasse le cas échéant 1837. On est vraiment dans l'histoire de la République et la République à Versailles. Alors, en introduction, je vous propose qu'on se projette en 1954. En 1954, on a un brillant étudiant qui s'appelle Jacques Chirac et qui s'apprête à entrer à l'École nationale d'administration, à l'ENA. Il y a peut-être d'anciens énarques dans la salle. Il a réussi brillamment les épreuves du concours et il n'espère qu'une chose, c'est que la chambre qu'on va lui attribuer à l'école, dans l'établissement, donnera sur la cour d'honneur de l'établissement avec vue sur le château de Versailles. Alors, cette histoire n'est presque pas une fiction, parce que en 1954, l'École nationale d'administration aurait dû être installée dans les lieux où nous nous trouvons aujourd'hui. En 1946, il y a eu un projet d'installation de l'ENA dans la grande écurie du château de Versailles. Il s'en est fallu peu pour que ça se fasse, et pour que, du coup, nos présidents énarques, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, n'aient utilisé du coup le château de Versailles comme habitation, puisque dans le projet, les énarques devaient loger au château de Versailles. Donc il s'en est fallu peu, c'est l'armée, alors il y a peut-être d'anciens militaires aussi parmi vous, je vais éviter de me faire des ennemis tout de suite, l'armée a été particulièrement réticente à abandonner les locaux qu'elle occupait dans la grande écurie, et du coup, le projet a capoté. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà. Alors, ça ressemblait à ça. Hein. Vous reconnaissez évidemment la grande écurie. On avait prévu les choses en grand. Hein. C'était relativement luxueux. Le logement du directeur se trouvait ici, dans le pavillon sud, donc juste en face. C'était très grand. Là, j'ai juste le rez-de-chaussée, mais c'était sur l'ensemble du pavillon, donc il y avait de la place. Ici, vous aviez une superbe bibliothèque. Dans une école, il faut forcément une bibliothèque. Mais surtout, ce qui pouvait paraître luxueux, alors je ne sais pas si vous le lisez d'ici, mais au milieu, là, c'est la piscine, les gymnases et les terrains de tennis, tout simplement, au nord. Ça ne s'est pas fait, oui. Mais ça ne s'est pas fait, malheureusement. Et ils sont restés à Paris et maintenant à Strasbourg. Alors évidemment, quand on leur dit, vous savez, vous avez failli être étudiant au château de Versailles ou à côté du château de Versailles, évidemment, maintenant qu'ils sont à Strasbourg, c'est un petit peu plus difficile. Ça ne s'est donc pas fait, mais la République est quand même installé au château de Versailles. Alors, avec trois principales questions qu'on va se poser pendant cette heure, la première, c'est comment le symbole absolu de l'histoire de la monarchie, comment le symbole, la marque du pouvoir royal, Louis XIV, évidemment, ses successeurs, mais quand on pense à Versailles, on pense à Louis XIV, qui a conçu le château comme un projet politique, comment ce projet politique monarchique et de monarchie absolue est-il devenu le palais de la République ? Je dis bien pas un palais de la République, mais le palais de la République. Ensuite, quels usages, au pluriel, la République a-t-elle bien pu faire et fait-elle encore de ce château ? Quelles en sont les conséquences, évidemment, pour la vie au château, mais également pour l'image générale que la République installée à Versailles peut dégager. Et troisième question, quelle implication personnelle nos présidents de la République, nos dirigeants, ont-ils pu avoir à Versailles ou concernant Versailles ? On a évidemment des images qui nous viennent en tête à tout le monde sur des chefs d'État accueillis, des inaugurations ou vernissages d'expositions. Mais voilà, comment les présidents eux-mêmes, présidents de la République, et comment nos dirigeants se sont-ils inscrits justement dans les pas des rois de France au château de Versailles ? Alors, comment Versailles devient un lieu de la République ? D'abord, c'est un hasard. C'est tout à fait un hasard. C'est le hasard, évidemment, de 1870-1871. Personne ne s'est dit au moment où on proclame la République en septembre 1870, tiens, on va aller s'installer au château de Versailles, ça va être sympathique. Non. Initialement, tout le monde est à Paris, mais à Paris en guerre. Vous vous souvenez, les Prussiens sont aux portes de Paris, assiègent Paris très rapidement. Le gouvernement fuit à Bordeaux. Et Versailles est occupé, d'ailleurs, dès le mois de septembre, par les troupes prussiennes. On a en tête, évidemment, l'image de la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces. Et début 1871, il y a la constitution d'une Assemblée nationale qui se réunit à Bordeaux, initialement, donc le 14 février, et désigne Adolphe Thiers comme chef du pouvoir exécutif. Alors Adolphe Thiers était un très mauvais diplomate, selon Bismarck, qui était bien placé pour le savoir. Et pour asseoir ce pouvoir exécutif, le pouvoir aussi de ce nouveau régime qui ne dit pas trop son nom, parce qu'on a proclamé la République en septembre, mais en février suivant, c'est quand même une assemblée très monarchiste qui est élue, vous le savez, Thiers décide de revenir très rapidement dans les environs de Paris. Pas à Paris, évidemment, puisque Paris reste toujours sous l'emprise prussienne, mais dans des villes aux alentours. Alors, plusieurs villes sont envisagées, Bourges, Fontainebleau, Orléans, et puis c'est Versailles, finalement, qui l'emporte. Alors, pourquoi Versailles ? D'abord parce que c'est plus près de Paris. On est à... il doit y avoir des Versaillais, on est combien de la porte de Paris ? 12 km, 14 km, quelque chose comme ça. On pourrait presque le faire à pied, d'ailleurs, d'autres l'ont fait, à une autre époque, et puis c'est plutôt sympathique, et surtout, y a des commodités pour installer tout ce monde. Émile Zola a dit, à propos de l'installation à Versailles, « Versailles est bien tentant, c'est un peu la campagne, une campagne bien peignée, aristocratique, on est loin du bruit, du tumulte, loin de la révolution, loin de la démagogie. » Donc, que de bons arguments pour venir à Versailles. Thiers, lui, est un petit peu plus pragmatique. Il dit qu'il fallait aller à Versailles et même de là, tâcher de rester maître de Paris. Quand on sait ce qui s'est passé ensuite avec la Commune, évidemment, ce sont des mots relativement forts. Le gouvernement, lui, regagne Paris, mais l'Assemblée nationale, du coup, s'installe à Versailles. C'est donc, en premier, le pouvoir législatif, pouvoir républicain législatif qui s'installe au château et non pas le pouvoir exécutif. On aménage très rapidement l'opéra. Alors, voilà une vue du château avec évidemment tout le campement de l'Assemblée nationale, ensuite du gouvernement, on va y venir, donc il s'installe un petit peu dans un désordre absolu, c'est le camping à Versailles. On aménage très rapidement l'opéra, vous le savez, pour recevoir les séances de l'Assemblée. Alors, on installe une tribune qui est dit-on, la tribune du Conseil des 500. On installe un nouveau plancher en pente douce, on recouvre la fosse d'orchestre, on installe de nouvelles banquettes, on enlève la toile de Duramo au plafond pour aménager un éclairage zénital, donc avec une verrière au-dessus de l'opéra, et on installe une buvette, évidemment, puisqu'on est dans une assemblée, une buvette et une salle des pas perdus. Voilà à quoi ressemble l'opéra Louis XV installé pour recevoir, alors c'est un petit peu plus tard, donc là on met celle du Sénat, je vais y venir, c'est la salle de l'Assemblée nationale. C'est charmant, hein, c'est pas laid. Alors toute l'aile nord, évidemment, est occupée par les bureaux, les salles de réunion, la bibliothèque de l'Assemblée, évidemment. Les députés, en revanche, eux-mêmes, doivent se loger en ville, comme ils sont très nombreux. Hein, c'est une assemblée, je crois, ils sont quelque chose comme plus de 700. On finit, en fait, par installer un dortoir dans la galerie des glaces, pour les députés. Avec un toit là en faïence, parce qu'il fait un petit peu froid, hein, je vous rappelle, on est au mois de mars, et en mars, sans chauffage dans la galerie des glaces, il peut faire assez froid. Alors vous le savez évidemment, la situation dégénère à Paris, et le gouvernement lui-même va rejoindre l'Assemblée nationale à Versailles. Le 18 mars, tout le gouvernement fuit et se retrouve au château, et alors là c'est pour le coup un vrai camping. Chaque ministre, chaque ministère investit une pièce, deux pièces, trois pièces, autant qu'il peut trouver. Vous avez le ministre, sa femme, évidemment, son chef de cabinet, la maîtresse du ministre. Enfin, tout le monde s'installe plus ou moins dans les pièces qu'il peut trouver. C'est ainsi que le ministère des Finances, par exemple, est installé dans l'appartement des filles de Louis XV. Le ministre lui-même, le ministre des Finances, installe sa chambre dans la chambre du roi. La chambre de la reine, elle, est occupée par le ministère des Travaux publics, et le ministère de l'Instruction publique, lui, s'installe dans l'appartement de la Dauphine. Donc c'est vraiment un camping. Alors, je passe sur les détails, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette installation, évidemment sur le combat mené contre la Commune de Paris. Après l'écrasement de la Commune au mois de mai, le gouvernement très rapidement quitte Versailles et retourne à Paris, évidemment gardant quelques pièces, hein. C'est toujours sympathique d'avoir une chambre de repli dans le corps central du château de Versailles, à nouveau pour la maîtresse, pour etc. C'est toujours plus discret. En tout cas, seule l'Assemblée nationale, soucieuse de se démarquer du pouvoir exécutif, va rester au château de Versailles. Il y en a un autre qui reste à Versailles, c'est Thiers. Adolphe Thiers, premier président de la Troisième République. Alors lui, il reste à Versailles, mais pas au château. Il est logé dans l'actuelle préfecture, qui devient donc la résidence du président de la République. On l'appelle d'ailleurs l'hôtel de la présidence. Thiers est très, très déçu de ne pas retourner à Paris. D'abord, il a un très bel hôtel particulier qui a été détruit par les communards dans le quartier Saint-Georges. Et puis sinon, il y a le palais de l'Élysée qui lui aurait bien convenu. Mais sa famille, la famille Thiers, sa femme notamment, ne souhaite pas retourner à Paris. Donc il s'installe dans l'hôtel de la préfecture, qu'on renomme hôtel de la présidence, et que lui d'ailleurs appelle hôtel de la pénitence, puisque il se retrouve tout seul. Son gouvernement, lui, est à Paris. Hein. Ce sont donc bien les événements, et donc un hasard, qui amène la République au château de Versailles. Face à l'impossibilité ou au refus de retourner à Paris, c'est à proximité de la capitale, dans une zone sécurisée et disposant de bâtiments suffisamment vastes pour accueillir ministres, fonctionnaires, députés, que s'installe d'abord pour quelques semaines la République. Alors, le régime républicain va finir par s'accommoder assez rapidement de ces symboles monarchiques. Je le disais, l'Assemblée nationale, elle n'a pas particulièrement envie de partir, et donc elle va s'installer vraiment au château de Versailles. En 1875, donc 4 ans après cette installation, les lois constitutionnelles de la Troisième République vont créer une deuxième chambre. Jusque-là, entre 1871 et 1875, il n'y a qu'une chambre parlementaire, l'Assemblée nationale, et en 1875, on va créer une chambre haute et une chambre basse, donc une chambre des députés et un Sénat. Manque de chance, on n'a qu'un opéra à Versailles. Les rois n'ont pas bien prévu les choses. Les sénateurs refusent évidemment de s'installer en même temps que les députés ou de partager la même salle. Et donc ce qui va se passer, c'est que les sénateurs vont récupérer donc, la salle qu'occupait jusque-là l'Assemblée nationale, et puis on va construire, vous le savez, une deuxième salle pour la Chambre des députés. Alors, il y a plusieurs projets, évidemment. Il y avait un projet notamment de transformation de la Galerie des Batailles pour la Chambre des députés. On se disait, vous savez, tout ça, c'est du Louis-Philippe. Hein, déjà, à l'époque, Louis-Philippe avait mauvaise presse. On n'en était pas encore, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y a eu un colloque sur Louis-Philippe, et notamment Louis-Philippe à Versailles. Bon, en 1875, on s'en contrefiche de Louis-Philippe. Donc la Galerie des Batailles, c'est avant tout un bel espace où on pourrait, en effet, installer 500, 600 ou 700 députés. Bon. Finalement, ça ne se fait pas, et c'est le projet de l'architecte de la Chambre des députés, Edmond de Joly, qui est retenu, avec cette salle que vous connaissez, évidemment, qui est construite au milieu de l'aile du Midi. Alors, les photos ne sont pas excellentes, hein, je m'en excuse, mais je suis persuadé que vous connaissez les lieux par cœur, de toute façon, et que vous n'avez absolument pas besoin de mes photos. J'en suis persuadé. Il faut que je le sois. Parce que les photos ne sont vraiment pas bonnes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les travaux durent très peu de temps, 7-8 mois, pour construire une salle de 1500 places. C'est une salle qui est relativement énorme, bien plus grande que la salle de l'hémicycle au Palais Bourbon, que la salle du Palais du Luxembourg, et a fortiori, mais c'est évidemment différent, la salle de l'Opéra de Louis XV au Château, mais qui n'est pas une salle prévue normalement pour des séances d'assemblée. Jules Grévy est le premier président à être élu dans cette salle en janvier 1879. Et tous les présidents, je vais y revenir, de la République, de la Troisième et de la Quatrième République, vont être élus dans cette salle. Les assemblées, donc quelques mois après l'élection de Jules Grévy en janvier 1879, les assemblées finissent quand même par quitter Versailles en se disant, bon, on est quand même un petit peu loin de Paris, le gouvernement, les ministères, les fonctionnaires sont tous à Paris. Nous quittons donc Versailles, donc en juillet 1879, c'est le retour définitif du Sénat et de l'Assemblée, enfin de la Chambre des députés à Paris. Alors définitif, à l'exception évidemment des périodes de guerre. Alors, retour à Paris, c'est pas pour autant qu'on va lâcher les espaces, hein, à nouveau. C'est quand même bien confortable d'avoir des espaces quand même plutôt sympathiques pour se réunir. Alors, la salle du Congrès a un avantage, c'est que c'est la seule salle, le seul hémicycle capable de réunir en même temps députés et sénateurs. Manque de chance, on est obligé de la garder, du coup. Des bureaux, évidemment, des bureaux. Vous vous rendez compte, on va élire les présidents de la République, on a besoin d'espace, il nous faut des salles d'archives, des salles de réunion, des salles de commission. On est obligé de garder tous ces espaces de l'aile du Midi. On ne peut quand même pas non plus élire un président de la République où les sessions peuvent durer plusieurs jours sans être logé sur place. Évidemment, il faut un logement pour le président du Sénat et du coup pour le président de la Chambre des députés. Le président du Sénat va pas, de la Chambre des députés va pas dire « Moi, je retourne à Paris pendant que l'autre loge là. » Hors de question. Mais le président du Sénat et le président de la Chambre des députés se sentent tout seuls. On va prévoir un logement pour chaque questeur. 3 questeurs par assemblée. Vous savez qu'il y a un secrétaire général aussi dans chaque assemblée. Allez, un logement pour les secrétaires généraux. Du coup, petit à petit, chacun va garder ses espaces dans le cœur même du château de Versailles. Je ne parle pas des annexes en ville, dans le cœur du château de Versailles. On a gardé la salle du Congrès pour la Chambre des députés. Le Sénat va évidemment dire, ben oui, mais si la Chambre des députés garde sa salle, je garde ma salle aussi. Ce qui fait que jusqu'en 1959, donc, alors je n'ai pas fait d'études de maths, mais ça doit faire 80 ans après le départ, 80 ans après le départ des assemblées à Paris, eh bien, pendant 80 ans, le Sénat reste affectataire et seul affectataire, autorité, sur le Sénat, sur l'Opéra. C'est-à-dire que jusqu'en 1959, toutes les visites du public, les nôtres, de l'opéra était soumise à autorisation de la questure du Sénat. Ce qui fait que, au début des années 60, alors là, pour le coup, vous allez me dire, non, on ne voit vraiment rien, hein, Mais c'était des toutes petites vignettes, je suis désolé. Donc à gauche, vous avez les plans des étages de l'aile du Midi et de l'aile du Nord. Imaginez que tout ce qui est en grisé, voilà, à chaque étage, là-haut, là, eh bien tout ça, ce sont des locaux dévolus au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Je ne rentre pas dans le détail de la légende, puisque vous avez Sénat, Assemblée, vous avez bureau, archives, appartements, mais tout ça, c'est dévolu aux assemblées. Jusque, là c'est, on est dans les années 1960. Hein. Ce qui va... Alors évidemment, l'opéra, par exemple, se dégrade lentement. Puisque le Sénat, évidemment, n'y siège jamais. Le Sénat n'est jamais revenu après 1879 au château de Versailles. Mais donc, il se dégrade, il pleut dans l'opéra. Les boiseries se craquellent, etc. Et finalement, avec la sauvegarde du château de Versailles, la sauvegarde du château de Versailles, je n'en parlerai pas, mais c'est une opération spécifique qui a eu lieu dans les années 1950, lancée par un ministre, pour le coup j'en parlerai un petit peu, qui s'appelle André Cornu. Dans le cadre de cette sauvegarde du château de Versailles, on va restaurer complètement l'opéra de Gabriel. Et donc en 1957, il y a l'inauguration des travaux par la reine Élisabeth. Dès lors, le Sénat, médiatiquement, ne peut plus conserver l'opéra. Et ça n'est qu'en 1959 qu'il se résigne à contre-cœur à restituer l'opéra de Gabriel à l'administration des Beaux-Arts. Alors l'agrément, évidemment, c'est tous ceux qui bénéficient de privilèges, donc tous les logements de fonction qui sont notamment dans les ailes des ministres. Hein. Donc ce sont des logements de fonction, vous savez, un président du Sénat ne se loge pas petit. Il se loge dans 300-400 mètres carrés. Hein. Moins, on est un peu à l'étroit. Du Sénat, il y a peut-être d'anciens sénateurs aussi parmi vous. Hein, il faut que je me méfie. Il ne faut jamais se mettre à dos un sénateur. C'est pareil pour la Chambre des députés, naturellement. Hein. Et en fait, c'est lorsque l'Assemblée nationale, en 1995, décide d'ouvrir, alors certains en gardent peut-être un souvenir, décide d'ouvrir dans les locaux du Congrès, donc dans l'aile du Midi, un musée dédié à l'histoire du Parlement, eh bien, c'est pas de chance, donc c'était une idée de Philippe Séguin, ben c'est le début de la fin. Parce qu'on se rend compte, à partir du moment où on ouvre un musée dans une institution qui est un château, et a fortiori le château de Versailles, ça veut quand même dire que le Parlement n'a pas besoin de ces locaux. Ça veut dire qu'il les a pour un usage d'agrément, de culture, de patrimoine, de mémoire, mais certainement pas pour un usage de travail. 1995, donc c'est l'ouverture du musée. 10 ans plus tard, le successeur de Philippe Séguin, Jean-Louis Debré, va dire « on arrête ». On arrête, il faut vivre avec son temps. Il y a eu ce hasard qui a fait que l'Assemblée est arrivé, le Parlement est arrivé au château de Versailles, eh bien, c'est la fin. Jean-Louis Debré va mener un combat, et c'est un vrai combat. Hein. Le terme bataille n'est pas trop fort, parce qu'il y a eu de très grosses réticences des parlementaires, des deux chambres, pour garder vraiment ces locaux, et finalement, c'est quand même Jean-Louis Debré qui va l'emporter, et restituer donc, les locaux du Parlement en 2005, dans les années 2005, au château de Versailles. Le choix de Versailles, évidemment, c'était également un choix d'opportunité pour la République. Alors que le nouveau régime, dans les années 1870, se cherche, doit s'affirmer auprès des Français, auprès des partenaires étrangers, investir Versailles, ça donne une impression de continuité et donc de sécurité du nouveau régime. Évidemment, ça lui donne un semblant de faste, un semblant d'apparat, mais qui peut être rassurant pour les partenaires internationaux. C'est le sens, évidemment, de la visite du tsar de Russie, Nicolas II, en 1896, dans le cadre de l'entente franco-russe, et qu'on va recevoir avec tous les honneurs, non seulement à Paris, mais aussi au château de Versailles, pour bien montrer que la France républicaine est d'abord l'héritière de la France glorieuse, ancienne, certes monarchique, mais ça n'est qu'un détail, finalement. Je parle pour Félix Faure, hein, si je peux me permettre. c'est vraiment l'idée que la France est chez elle, à Versailles. Qu'on soit en République, comme maintenant, et c'est bien, ou en monarchie, comme à l'époque. Et c'était pas bien à l'époque. Enfin, on le dit pas au tsar, évidemment. Le pauvre. Le tsar, donc, voilà, visite du tsar. Alors, vous allez me dire, évidemment, vous ne voyez rien, mais là, à nouveau, hein, je n'y suis pour rien, la qualité des photos de l'époque. Donc, on voit l'arrivée du tsar de Russie, avec Félix Faure, dans la cour donc, du château de Versailles. C'est l'un des points d'or, c'est le point d'or de la visite du tsar à Paris en 1896. Avec cette visite, ça n'est plus une simple visite culturelle, patrimoniale, qu'on effectue au château de Versailles lorsqu'on reçoit un chef d'État, parce qu'il y en a déjà, il y en a eu d'autres, des souverains, des chefs de gouvernement, des princes, etc., qui ont visité Versailles dans les années 1870 ou 1880. Mais avec Nicolas II, on fait de cette visite au château de Versailles un outil diplomatique, un outil politique, un outil de représentation, non pas pour dire « venez voir ces jolis Versailles », mais « venez voir comment la République peut accueillir un de ses hôtes particuliers, en l'occurrence dans le cadre de l'entente franco-russe ». Alors un siècle plus tard, d'ailleurs, la République française fera la même chose avec le successeur de Nicolas II, avec Boris Yeltsin. Alors Boris Yeltsin a été reçu une première fois en 1991, à une période, à un moment où on ne savait pas trop quelle était sa légitimité politique. Donc en France, on l'a reçu un petit peu par-dessus la jambe, en disant « oui, bonjour Monsieur Yeltsin, on va vous loger à l'hôtel Ibis, ce sera très bien, rassurez-vous, les chambres sont confortables ». Manque de chance, un an après, Boris Yeltsin était quand même le nouveau chef de tout le bloc soviétique, oriental, et donc une des plus grosses puissances, évidemment, du monde. Et donc on s'est dit, on a peut-être fait une petite erreur il y a un an, donc on va le recevoir avec les plus grands honneurs dus à un partenaire qu'on souhaite, évidemment, amical. Et donc, pour la première fois, mais j'y reviendrai, on a rouvert exprès pour lui les portes du Grand Trianon, qui était fermé depuis déjà une dizaine d'années, où il n'y avait plus d'accueil de chefs d'État étrangers. Eh bien, pour Boris Yeltsin, on l'a accueilli avec force vodka, paraît-il, selon les responsables du château de l'époque. Alors, apparemment, il a fallu, on va dire, ravitailler assez régulièrement la délégation en boissons un petit peu fortes. Se met donc en place, petit à petit, dans ces années-là, un usage républicain du château, et qu'on peut décliner aujourd'hui en trois volets. Alors, quel est justement cet usage républicain ? Il y a trois usages, à mon sens. Il y a symboliser la République, il y a recevoir, et ensuite il y a habiter. Alors, symboliser la République, le premier, Versailles est un lieu où le pouvoir s'exerce, et où il doit se voir. À ce titre, il y a la présence du Parlement, bien sûr, hein, on l'a dit, jusqu'en 2005, et encore aujourd'hui avec les révisions constitutionnelles. Et puis, sous les 3e et 4e Républiques, c'est évidemment les élections présidentielles. Alors voilà à quoi ressemble une élection présidentielle. On est en 1920, septembre 1920. Vous connaissez l'histoire de ce pauvre président Deschanel, qui était plutôt sympathique, hein, mais c'est vrai que signer des décrets Napoléon quand on est président de la République, ça fait des ordres. Tomber du train lorsqu'on est en voyage en pleine nuit, ça fait des ordres également, et se retrouver en pyjama au bord des voies. Donc, septembre 1920, il faut remplacer ce pauvre président Deschanel. Et donc, élection présidentielle. Toutes les élections présidentielles ont lieu au château de Versailles, donc entre 1873 pour la première, et 1953 pour la dernière, donc toutes les élections présidentielles par sous les 3e et 4e Républiques. Alors un rappel que vous connaissez bien sûr, c'est que les présidents à l'époque sont élus par les parlementaires. Le suffrage universel pour l'élection présidentielle n'existe pas avant la 5e République, et ce sont donc les députés et les sénateurs qui se réunissent dans la salle du Congrès pour élire le président de la République. Alors dit comme ça, c'est très simple. En réalité, c'est tout un cérémonial qui se met en place, parce que ça veut dire 1000 parlementaires ou un peu moins de 1000 parlementaires qui se déplacent de Paris à Versailles. en voiture, en train, avec la ligne Paris-Versailles. C'est évidemment les invités, les diplomates, les hauts fonctionnaires, fonctionnaires de l'Assemblée pour faire fonctionner toute la machine, évidemment, mais fonctionnaires des ministères. Donc les diplomates, pour qu'ils puissent télégraphier leur gouvernement, c'est M. Deschanel qui est élu, c'est M. Doumer qui est élu, etc. Tous les invités, de manière générale, et on va dire le tout Paris, les mondanités, c'est vraiment un événement extrêmement suivi par la presse, évidemment, et toute la presse d'illustration, le journal d'illustration notamment, qui se fait l'écho de ces élections. Alors, il y a une citation d'ailleurs de l'écrivain Colette qui est là-dedans. C'est une Bible, ce livre. Je le dis comme ça. Hein. Colette qui nous dit à propos de ces élections. Alors, c'est très drôle quand on connaît Colette et son œuvre plutôt féministe. Le monde de la finance, de la politique, des lettres, le monde tout court, fournissait à cette énumération des noms célèbres. Le théâtre et même le music hall avaient délégué à Versailles ce qu'ils ont de mieux comme vedette. Je sais bien que de tout temps, les femmes ont montré de la curiosité, un goût, c'est pas moi qui le dis, hein. Les femmes ont montré de la curiosité, un goût tripoteur et ingénieux pour l'intrigue et la politique, et que c'est Colette, hein. Cela ne suffit pas à expliquer, j'allais dire à excuser, leur présence ici aujourd'hui. Elles sont vraiment beaucoup, elles sont trop. C'est pour dire que ces élections, c'est vraiment un événement mondain avant tout, mais surtout l'événement qui, médiatiquement, va marquer le pas de la vie politique régulièrement, tous les 7 ans, voire un peu moins, pour l'ensemble donc des Français. Alors, il y a tout un cérémonial, l'arrivée des ministres et des parlementaires par la cour d'honneur, le corps diplomatique et les invités, eux, arrivent par la rue Gambetta, un cordon de sécurité, 1500 hommes, généralement, barrage dans les rues, le château est bien sûr fermé à la visite, ce qui peut avoir des conséquences lorsque les parlementaires ne se décident pas assez vite. C'est le cas pour la dernière élection en 1953. René Coty est élu... Au bout, alors je crois que c'est le 13e tour de scrutin, 7 jours de fermeture. Donc évidemment, imaginez aujourd'hui votre carte de touriste qui vient du Japon. Il a 10 jours pour faire toute l'Europe. Et il a prévu d'être le mercredi de 10h à 10h45 à Versailles pour visiter tout le château en 45 minutes. Et donc on lui dit, désolé, non, là, c'est pas possible, on élit le président de la République. Et, ben oui, mais vous avez commencé il y a 5 jours. Eh oui, mais on continue à élire le président de la République. Revenez demain, peut-être. Donc, aujourd'hui, ça ne serait évidemment plus possible. Ensuite, il y a l'ouverture de la séance, le vote un à un des parlementaires, donc évidemment, quand il y a 13 tours de scrutin, c'est un petit peu long, et ensuite, proclamation des résultats et retour du président élu à Paris. C'est un rituel important parce qu'il marque, dans l'enceinte du Palais des Rois de France, la continuité de la République et la garantie du choix démocratique. Donc médiatiquement, en termes de communication, on dirait aujourd'hui, c'est évidemment l'événement marqueur de la vie républicaine et il a lieu au château de Versailles. Sous la Ve République, ce sont les révisions constitutionnelles qui vont jouer ce rôle. Il y en a eu un petit peu moins de 20, un peu plus de 15 depuis 1958, généralement le lundi, c'était pas toujours le cas au début, mais maintenant, vous savez, le concept d'essayer de pas trop gêner le public, eh bien, ça commence à être compris, donc généralement ça a lieu le lundi, et là, c'est toute l'Assemblée nationale et tout le Sénat qui se transportent à nouveau hein, dans l'aile du midi, salle du Congrès, avec des bureaux pour les présidents, des bureaux pour les questeurs, même si ça ne dure pas longtemps. Il y a ce côté, le château devient le Parlement. Il y a même un bureau de poste, puisque les députés et sénateurs, comme cela, peuvent envoyer un timbre oblitéré du jour du Congrès, du château de Versailles, donc pour les envoyer à leurs administrés en disant « pensez à moi pour les prochaines élections ». Cette présence est jugée fondamentale par les parlementaires. Michel Charras disait d'ailleurs « Versailles est un élément de souveraineté parlementaire et il est symbolique que pour sa dernière visite au château de Versailles, François Mitterrand, donc, en avril 1995, et quitte la présidence quelques jours plus tard, le 19 avril 1995, il vient inaugurer le musée du Parlement, créé par Philippe Séguin. Donc, la dernière visite de Mitterrand à Versailles, c'est pas pour visiter le château, c'est pour visiter le Parlement. Le château de Versailles, évidemment, tout au long de la Ve République, c'est aussi le lieu par excellence des réceptions républicaines. Alors, tout ne se met évidemment pas en place tout de suite, il y a une logistique un petit peu balbutiante au début, au point que la voiture qui transporte la reine de Norvège de mémoire et l'épouse du président de la République en 1907, eh bien, a un accident dans le parc de Trianon, grosso modo elle est un petit peu trop large pour passer un petit pont, elle bascule, c'est une voiture à cheval, hein. Un cheval bascule dans le ruisseau, il se noie, c'est catastrophique, la reine de Norvège hurle, Madame la Présidente hurle aussi, donc voilà, c'est un petit peu bancal, un protocole, on n'avait pas vérifié la largeur du pont et la largeur de la voiture. Alors, on va dire, oui, 1907, ils n'étaient pas très doués. Dans les années 70, lorsqu'on a reçu un président américain au château de Versailles, là, ce n'était pas la largeur de la voiture, c'était la longueur de la voiture, qui était beaucoup trop longue entre les roues avant et les roues arrière, et donc trop basse, pour passer le seuil de la cour d'honneur. Et la voiture a râpé assez violemment les pavés de la cour d'honneur. Donc, le protocole se met en place petit à petit. Alors du coup, on essaye les voitures. Marc Saltet dit qu'il s'est promené pendant toute une après-midi dans la Rolls-Royce de la reine d'Angleterre pour voir si justement la Rolls-Royce passait par le chemin qu'on pensait lui faire faire. Ce qui se met en place, en revanche, assez rapidement, c'est la part de Versailles accordée à chacun de ses visiteurs. Comme le disait La Fontaine, « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Eh bien, c'est la même chose. Les puissants, eux, ont droit aux honneurs de la Galerie des Glaces, avec président de la République, pour un déjeuner ou un dîner. Alors d'abord un déjeuner, parce que tout simplement, il n'y a pas d'éclairage dans la Galerie des Glaces. Quand on met l'éclairage, on pourra y organiser des dîners. Et les misérables, eux, se contentent généralement de la galerie basse, comme le roi d'Afghanistan reçu en 1928 par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Édouard Herriot, voire pire, on se contente d'une visite sympa, hein, sympa, charmante, gentille, visite du château, et puis on va déjeuner au Trianon Palace. Hein, on va certainement pas organiser un truc, c'est le cas pour le Bey de Tunis en 1930. Donc, voilà, chaque visiteur a droit à un peu de Versailles, mais pas forcément à tout. Alors évidemment, certaines réceptions sont très fastueuses. Celle du roi d'Angleterre, George VI, en 1938. Alors j'ai des photos, mais je pense que ça ne va pas être dans le bon ordre. Donc je vous le passe tout de suite. Voilà, ça c'est le roi George VI arrivant dans, je suppose, une de ses trois voitures. Je ne le reconnais pas de dos. Après avoir passé 50 000 hommes en revue à Versailles. En 1938, la réception du roi d'Angleterre est vraiment une réception extrêmement importante et très marquante, avec évidemment toute la foule qui hurle « Vive le roi !» ce qui, à Versailles, est assez symbolique. Mais c'est surtout... alors, il y a une autre photo, je crois, où on voit le déjeuner. Il n'y a toujours pas d'électricité dans la Galerie des Glaces. Donc, le déjeuner, avec, on reconnaît évidemment George VI, Albert Lebrun, le président de la République, la reine d'Angleterre et Madame Lebrun à gauche. C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que le mouvement va prendre de l'ampleur, pour plusieurs raisons. La première raison tient évidemment à la présidentialisation du régime, sous la Ve. Le chef de l'État n'est plus uniquement un faire-valoir diplomatique chargé d'ouvrir les portières aux reines, mais il est le cerveau de la politique étrangère. À compter du général de Gaulle, c'est le président qui reçoit pleinement, qui décide qui il reçoit et comment il reçoit. Du coup, c'est lié à la deuxième raison de cet usage amplifié qui tient à la vision générale que le général de Gaulle a de la France et de ses devoirs internationaux et de la place que la France doit occuper dans l'échelle mondiale. En recevant à Versailles, de Gaulle offre évidemment ce que la France a de plus beau, ce que la France a de mieux, ce que la France a de plus ancien, ce que la France a de plus en héritage de plus long et un héritage assumé, mais également, soyons honnêtes et pour parler vulgairement, ils souhaitent en mettre plein la vue, tout simplement. Versailles, c'est ce qu'on a de plus lumineux à offrir aux partenaires étrangers. On n'est pas dans une autre dimension que celle pour laquelle Versailles a été créé sous Louis XIV. Alors, je mets Louis XIII, vous allez me dire, non, c'est Louis XIII. Mais Louis XIV au sens de son projet politique, c'est-à-dire d'impressionner la cour, impressionner la France, impressionner le monde entier. Lorsque De Gaulle reçoit à Versailles, il est l'héritier de Louis XIV. Il est l'héritier de Louis XIV parce que il veut impressionner personnellement. Si vous regardez la Galerie des Glaces, normalement, le général de Gaulle n'y apparaît pas, contrairement à Louis XIV. En revanche, il veut que la France soit présentée sous son jour le plus fastueux pour montrer qu'elle est une puissance mondiale. Et c'est dans ce sens que la République s'installe concrètement dans les meubles du roi. La troisième raison de cet usage amplifié tient aux conditions d'accueil. Jusqu'en 1966, et sauf exception, Versailles était une étape dans les visites de chefs d'État étrangers. Il logeait généralement à Paris, soit au Quai d'Orsay, soit dans leur ambassade, parfois au Palais de l'Élysée. C'est le cas pour le Palais de l'Élysée de la Reine d'Angleterre en 1957. Je crois... Ah non, c'est les Kennedy. J'ai pas la Reine d'Angleterre en 57. Donc 57, le moment où elle inaugure l'opéra. Donc, Versailles est une étape avec, généralement fastueuse, un déjeuner, un dîner, et c'est tout. De Gaulle, lui, va profondément changer les choses en aménageant à Versailles une infrastructure chargée non seulement d'accueillir le chef d'État, d'accueillir un dîner, une soirée, une réception, mais également tout simplement chargée d'accueillir la résidence des chefs d'État étrangers en visite en France. Et c'est spécialement au Grand Trianon qu'il va le faire. Alors comment ça se fait ? Dès 59, on y pense. Et puis en 1961, on imagine, le mois d'août 1961, l'architecte en chef du château, Marc Saltet, est en vacances, c'est son adjoint qui le remplace, Jean-Louis Imbert. Van der Kemp, que vous connaissez évidemment, Gérald Van der Kemp, le conservateur du musée, est là. Et ils doivent recevoir André Malraux pour une visite quelconque. Bon. À 3h, on téléphone, on dit, au fait, Malraux arrive dans 2h, dans 1h30, il sera accompagné par le président de la République. Ah, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah, vous videz le château. D'accord. Mois d'août, hein, on vide le château. Et au moment où le dernier visiteur passe la grille de la cour d'honneur, hop, la déesse présidentielle arrive. Et là, De Gaulle sort et dit à Van der Kemp et Jean-Louis Imbert, voilà, je viens de Fontainebleau, j'étais ce matin à Compiègne, nous sommes à la recherche d'un lieu pour accueillir des sommets, des séminaires de chefs d'État européens. Voilà. On pense à un château, c'est sympathique, on peut loger tout le monde. Donc, montrez-nous ce que vous pouvez faire à Versailles. Donc, visite à l'improviste, et il s'agit là, vraiment, d'accueillir une résidence de chef d'État étranger. Le projet, ultra-moderne, consiste d'abord à restaurer complètement le Grand Trianon, qui est dans un état épouvantable, hein, dans les années 1960. Restauration des parquets, des menuiseries, des pierres, de la cour, des sous-sols dans lesquels on va aménager des cuisines ultra-modernes. Installation, puisqu'on y loge quand même un chef d'État, installation du téléphone, de l'électricité un petit peu partout, il ne faudrait pas s'éclairer la bougie. Quand même. Donc une rénovation complète et puis évidemment des infrastructures pour installer les chefs d'État étrangers. Donc ce qui est tout de suite prévu initialement, c'est d'installer le chef d'État, donc sa chambre, sa salle de bain, dans cette partie-là. Voilà. Alors qui apparaît normalement en rose sur le plan. Est-ce qu'au fond de la salle, ça apparaît en rose ? Et ensuite, tout ce qui est en jaune, ici, ce sont des pièces de réception. Il y a de quoi faire une jolie fête. Donc ça, c'est le projet initial. Donc, un logement pour le chef d'État invité, et puis des pièces de réception. Les travaux vont durer jusqu'en 1966. Donc, grosso modo, 4 ans de travaux, hein, depuis 1962 jusqu'en 1966. Mais finalement, De Gaulle ne va pas utiliser cette faculté de recevoir les chefs d'État au Grand Trianon. Il y en a qu'un qui est reçu alors qu'il est encore là, en mars, je crois, 1969. C'est Nixon, pour un entretien très court d'ailleurs. Mais c'est tout, c'est surtout ses successeurs, ce sont surtout ses successeurs, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, dans les années 70, qui vont utiliser le Grand Trianon à foison. Alors, évidemment, c'est pas très apprécié, hein, ce type de, d'usage. Donc ça, c'est une caricature qui est parue le jour de l'inauguration du Grand Trianon en 1966. Évidemment, Charles de Gaulle caricaturé en roi soleil. Et en dessous, je lis la phrase, si vous ne la lisez pas, « Ne sont-ce point les bidonvilles de Nanterre que j'aperçois là-bas ?» Donc évidemment, ça a un petit peu grincé des dents, le résultat était magnifique, mais dans l'opinion publique, ça n'est pas forcément bien passé. Le dispositif des réceptions de chefs d'État donc se met en place sous De Gaulle, avec, on va dire, un plan de table fixe dans la Galerie des Glaces, 150 à 200 personnes et à peu près toujours les mêmes. Un spectacle à la chapelle qui suit un petit concert très rapide qui suit le dîner, puis un spectacle à l'opéra. L'éclairage de la Galerie des Glaces enfin arrive au tout début des années 1960, en particulier pour la réception grandiose des Kennedy. Donc je retourne en arrière et nous avons les Kennedy ici. Voilà, John Kennedy, Jackie, De Gaulle et son épouse Yvonne. On installe des cuisines provisoires qu'on monte et démonte en fonction des réceptions dans la cour des serres du corps central. Et donc Versailles sous De Gaulle devient vraiment un outil diplomatique. On a dit, c'était je crois Claude Dulon, l'historienne Claude Dulon, qui a écrit un livre sur la vie quotidienne à l'Élysée, à l'époque de De Gaulle, elle dit « De Gaulle disait « Je ne reçois à Versailles que les souverains d'anciennes dynasties ». C'est totalement faux, parce qu'en réalité, il va recevoir tous ceux qu'il estime devoir recevoir en fonction de leur rang et de la place qu'ils ont dans les relations bilatérales ou internationales avec la France. Un exemple, on ne peut pas refuser à Kennedy en 1961 ce qu'on a accordé à Khrouchtchev un an auparavant. Évidemment, en 1960-61, si on reçoit l'un, on reçoit l'autre. Donc quelques réceptions fastueuses, évidemment. Celle des Kennedy, bien sûr, en 61. Premier président reçu en visite officielle, premier président américain reçu en visite officielle au château de Versailles depuis Wilson en 1919. Un autre président américain en 1978, c'est Jimmy Carter, où là, Giscard d'Estaing voit les choses en grand, il invite 4000 personnes. Alors, ça a été franchement un vrai bazar. Il y avait trop de monde, je crois que Giscard d'Estaing le dit lui-même.